Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons dire à chacune et chacun en cette heure, qui que tu sois, frère et passant, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et chacun la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la lumière, celle qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. Si des frères et des sœurs sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ. Si vous avancez avec lui, recevant le pain de sa parole, quelle nuit pourrait s'emparer de vous? Gloire à toi, ô Dieu de lumière et de paix. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter dans le recueil du psautier français, en tête duquel il y a d'alors un petit livret avec l'ordre liturgique. Je vous invite à chanter le psaume 98, la première, la deuxième et la troisième strophe. Heureux es-tu si tu fermes ta porte à la violence et à l'instinct de dominer tes semblables. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur à la force de la douceur et de la maîtrise de soi, et tu auras la joie de voir la terre venir à toi. Heureux es-tu si tu ne crains pas de vibrer avec ton prochain, affronté à la douleur, à la solitude ou à la misère. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur aux larmes, de la compassion et aux gestes qui relèvent, et toi aussi, tu seras consolé. Amen. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes et des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi, j'ai besoin de toi. Et de paix. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et la donne sans mesure. Rendons grâces à Dieu pour son don ineffable. Amen. confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus, prophète, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Éternel, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant dans nos existences des chemins de lumière. Nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit, qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. Ta parole nous enracine dans les profondeurs du passé, elle lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour qu'à travers les paroles que nous allons entendre, passe au profond de nous ton souffle créateur. Amen. Je vous invite à écouter la lecture de la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Nous lirons simplement ces quatre versets pour aujourd'hui, les versets 8 à 11. Dans cette même région de Galilée, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 90, la première, la deuxième et la quatrième strophe de ce cantique 90.
Thank you.
recueillons-nous dans la prière. Ô Éternel, en cette heure de culte, accorde-nous le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de ta création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit et du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance. Accorde-nous ce silence, celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit qui éclaire pour nous ta parole. Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais retenir pour la prédication de ce matin dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, ce verset 10 que nous entendions tout à l'heure, ces paroles, cette affirmation au cœur de l'annonce faite aux bergers, « N'ayez pas peur ». Voici, en effet, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle, elle est précisée au verset suivant. Il s'agit de la naissance de Jésus, appelé alors le Sauveur. Une bonne nouvelle pour tout le peuple. Tout le peuple, c'est d'abord chez Luc, ce groupe des bergers. Ce ne sont pas, comme dans l'évangile de Matthieu, des mages ou des savants. Et chose qu'on ne sait pas nécessairement, en Palestine, les bergers avaient mauvaise réputation. Ils passaient pour des vagabonds, des voleurs. Ils symbolisent donc ici au début de l'Évangile, tous ceux qui sont mal vus et par conséquent les exclus. Or, ils sont les premiers objets de cette révélation. On a souvent dit, à juste titre, que l'évangile de Luc était le plus social de nos quatre évangiles. Quelques pages après ce récit, au chapitre 4 de l'évangile de Luc, il y a cette fameuse prédication de Jésus à Nazareth, la synagogue, Jésus qui déclare « Nul n'est prophète dans son pays ». On lui tend le rouleau d'Ésaïe pour qu'il lise la Bible et il lit ces versets qu'il s'applique à lui-même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour libérer les opprimés. » Il y a là, nous le voyons bien, dès le début de l'Évangile, un renversement des valeurs qui s'exprime plus particulièrement dans ces fameuses béatitudes que l'on trouve dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, mais beaucoup plus virulente dans l'évangile de Luc. Et puis, avant notre récit, il y a un autre texte emblématique, une sorte de portail d'entrée de tout l'évangile de Luc. C'est le cantique de Marie, c'est le Magnificat, à travers lequel Marie nous dit que Dieu inaugure un règne nouveau en Jésus, un nouveau monde. Et le mouvement du christianisme social a souvent trouvé dans le Magnificat un des fondements de son action. C'est dans ce Magnificat qu'il y a ces mots: Dieu a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. C'est là une nouveauté, un bouleversement. En Jésus, Dieu rend prioritairement justice aux victimes. Charles Maurras, l'écrivain, l'homme politique, nationaliste, royaliste, violemment antisémite, anti-protestant, anti-démocratique, parlait, parce qu'il avait bien vu le caractère subversif du Magnificat, parlait du venin du cantique de Marie, et il disait heureusement que ce Magnificat est chanté en latin, parce qu'ainsi le bon peuple n'y comprend rien. Hugues Cousin, c'est un exégète contemporain, catholique romain, écrit « Sous la dictature militaire en Argentine, dans les années 70, la commission épiscopale de liturgie a purement et simplement censuré le verset 52a. Donc on a enlevé, quand on lisait le Magnificat, on a enlevé de ce cantique de Marie ces mots que je viens de citer: Dieu a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle est pour tout le peuple. Au cœur de notre vie chrétienne, il y a cette alliance infrangible entre un christianisme spirituel et social. Le christianisme spirituel représenté par nos cultes, par nos prières, par nos méditations et un christianisme social représenté humblement, il est vrai, par l'entraide dans nos paroisses, par la diaconie. Cela forme un tout. Et comme je le répète invariablement, et probablement connaissez-vous tous ma formule, joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Joindre les mains, c'est ce christianisme spirituel. Joindre les autres, c'est ce christianisme social et pratique. Et puis voici la seconde étape de cette prédication qui comportera ainsi trois moments. Pour tout le peuple, Noël, c'est la fête populaire par excellence. Elle sort des églises, elle nous échappe. On en dénonce parfois des dérives. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, une fête populaire, la religion populaire. Eh bien, je n'aime pas le ton avec lequel trop souvent on parle de la religion populaire. Un ton de mépris, un ton condescendant, de supériorité, un ton élitiste et puriste. Pour une fois, que grâce à Noël, l'Église n'est pas perçue comme celle qui prononce des interdits, qui condamne et qui dit non et encore non et toujours non. Pour une fois que grâce à Noël, l'Église n'est pas confinée dans un monde à part du monde, mais qu'elle est dans la rue, alors on pousse des cris, alors on fulmine. Pour tout le peuple, Noël n'est pas réservé aux vrais croyants, aux vrais chrétiens que nous serions. Il n'y a pas à adopter là une théologie sectaire et d'exclusion. On sait peut-être où est l'Église, mais sait-on où elle n'est pas? D'ailleurs, le protestantisme lui-même a voulu être, dès les origines, une bonne nouvelle pour tout le peuple. Il a été par la traduction de la Bible en langue vulgaire, comme on disait. Vulgaire vient du latin vulgus, qui veut dire le peuple, la foule, donc en langue populaire. Et associé à cela, il y a l'affirmation d'un sacerdoce universel pour tout le peuple. Le mot « peuple », dans le texte grec, c'est « laos » qui a donné « laïque ». Alors, on connaît la satire de Boileau disant des protestants que chacun d'entre eux est pape, une Bible à la main. Et on se défend de cela en disant « mais non, c'est, il n'a rien compris ». Pas du tout. Il a très bien compris. Chaque fidèle n'est ni plus ni moins inspiré que le pape quand il dit la Bible. N'accaparons pas la Bible. N'accaparons pas Noël, ne cherchons pas à contrôler Noël, une fête populaire. Il faut prendre cela au sérieux. Il y a quelque chose de très profond dans cette aspiration à cette fête populaire. Il y a une soif, il y a un besoin. Un besoin de joie, et Noël, c'est la joie. Un besoin de lumière, et Noël, c'est la lumière pour tous. Un besoin d'espérance, et Jésus est cette espérance. Un besoin secret, profond, d'une rupture avec le monde tel qu'il est. On veut un monde différent. On rêve pendant quelques jours d'un monde différent. Certains veulent non seulement rêver, mais changer ce monde. Un monde plus généreux. Un monde qui ne nous présente pas le visage ensanglanté de l'histoire. Un monde tellement brisé par ses victimes, par ses misères, tant de deuil, tant de souffrances injustes, tant de morts. Quelque chose de secret se dit à travers ce débordement de Noël et la fête populaire. Et je suis entièrement d'accord avec ce que le pasteur James Woody écrit dans le dernier bulletin paroissial de l'oratoire, La Feuille Rose. Il écrit ceci: même les excès de la fête populaire peuvent nous mettre sur la voie de ce que Noël nous promet, une grâce surabondante. Et puis, chers frères et sœurs, et ce sera la troisième étape de cette prédication, je me demande si les réformateurs au XVIe siècle n'auraient pas pu reprendre à leur compte cette annonce faite aux bergers et dire: nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et il n'aurait peut-être pas dit « n'ayez pas peur », mais plus précisément « n'ayez plus peur ». Le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu impitoyable et cruel, un Dieu sanguinaire et vengeur, comme le veut une certaine théologie de la croix. Dieu est un Dieu d'amour. Le Dieu de Jésus est un Dieu de grâce, dont nous disons la précédence radicale: le Dieu de Jésus est un Dieu de libération. Il me semble que ce mot « libération » fait mieux entendre aujourd'hui que « salut », ce que signifie ce sauveur. Or, à travers l'histoire du christianisme, et plus particulièrement du protestantisme, hélas, nous avons fait de cette libération un nouvel esclavage, parce que pensez toujours à mon péché, à mes péchés, à mon salut. C'est penser toujours à moi, s'enfermer dans une attitude narcissique où le moi devient une prison, alors que la grâce est exactement l'inverse. Elle nous fait bondir hors de nous-mêmes, elle nous libère pour l'autre. Au synode de Berne, en 1532, c'était le moment de la Réformation, on déclare ceci: nous devons nous exhorter les uns les autres fidèlement, nous, les serviteurs du Christ, à prêcher uniquement sur notre Maître, afin que nous ne soyons pas trouvés prédicateurs de la loi. Quand la prédication devient moralisatrice, culpabilisante, traumatisante, insistant parfois lourdement sur les péchés. Petite parenthèse, en plus de 50 ans de prédication, je n'ai consacré qu'une prédication à la notion du péché. Quand la prédication devient moralisatrice, elle ne fait plus entendre cette libération offerte. Elle n'apporte pas l'évangile. Elle ne proclame plus ce « je vous annonce une bonne nouvelle » qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je me rappelle un petit événement significatif. Je devais présider un culte en province. J'étais arrivé très tôt et je m'étais assis avec ma robe pastorale dans le fond du temple, qui avait cette particularité d'avoir deux portes qui se faisaient vis-à-vis, porte d'entrée ou de sortie, face à face. Si bien que des personnes passaient souvent par ce temple parce que cela leur permettait de connaître un raccourci par rapport au trajet qu'ils auraient dû faire sinon. Et une petite fillette, environ 10 ans, sautillante, entre dans le temple et toute interloquée me voit avec ma robe pastorale et me demande ce que je fais là, qui je suis. Et au mot « Dieu » que je prononce, elle se récrie et me déclare « Dieu, je ne l'aime pas ». Je suis un peu interloqué. Elle précise « Dieu, je ne l'aime pas parce qu'il est toujours en train de nous juger et de nous condamner. » Je me rappelle ce livre remarquable écrit par un historien du christianisme, Jean Delumeau, en 1978, « La peur en Occident ». Et dans ce livre, Delumeau parle de la pastorale de la peur, de ces clergés qui, au Moyen-Âge, comme à l'époque de la Réforme, gardent les fidèles sous leur coupe, pour mieux, grâce à eux et tout ce que cela implique, les orienter vers le paradis et les faire échapper aux flammes de l'enfer, comme s'il n'y avait dans la cité des hommes que le choix entre l'Église et ses clergés et l'enfer. Pastorale de la peur. Mais comme nous le montre cette histoire de cette fillette en plein XXe siècle, il n'y a pas si longtemps de cela, il y a une catéchèse de la peur. Et il y a même, nous le savons bien, des sermons de la peur, une homilétique de la peur. Et cette horrible parole est là qui a traversé toute l'histoire du christianisme. Elle est écrite par saint Cyprien au IIIe siècle. Hors de l'Église, pas de salut. Non, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, non pas pour quelques fidèles d'une institution d'hier ou d'aujourd'hui, pour tout le peuple. Wilfred Monod, en 1901, prononçait un exposé dans lequel il déclarait, c'était à Rouen, il avait été pasteur à Condé-sur-Noireau et bientôt il sera pasteur à l'oratoire, il déclarait ceci, « La personne du Christ n'appartient à aucune théologie, à aucun clergé, à aucune église, elle appartient à l'humanité. » Le Christ véritable appartient à la société. Une Église qui voudrait l'accaparer commettrait un vol à l'égard de la collectivité. Et nous pouvons dire de Noël, le mot Noël vient du latin natalis, qui désigne la naissance et plus particulièrement la naissance de Jésus. Eh bien, nous pouvons dire avec joie de Noël, qu'il appartient à l'humanité, qu'il appartient à la société et qu'une Église qui voudrait l'accaparer commettrait un vol à l'égard de la collectivité. J'aimerais citer enfin Calvin. Je ne le fais pas souvent, je me rappelle ce titre du petit livre remarquable que le professeur et pasteur Bernard Raymond consacre à Calvin et qu'il sous-titre « Un aïeul si encombrant. Calvin, dans le commentaire qu'il consacre aux évangiles, consacre deux paragraphes entiers à cette notion de « pour tout le peuple ». Cela est d'autant plus surprenant que beaucoup de commentateurs de notre texte ne retiennent absolument pas ces mots « pour tout le peuple ». Et Calvin nous dit alors trois choses. Premièrement, que l'annonce faite ici ne concerne pas que les bergers, mais qu'elle est faite aussi, et il insiste sur ce « aussi », pour tout le monde. Et il précise « pour tout le genre humain ». Deuxièmement, de cette joie, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie, il écrit, je le cite, « qu'elle est offerte à tous indifféremment et qu'elle est universelle au regard de Dieu ». Troisièmement, chose beaucoup plus surprenante, Calvin, qui est le théologien de cette horrible doctrine de la double prédestination dans laquelle il s'est enferré au fur et à mesure qu'on l'attaquait. La doctrine de la double prédestination, ce n'est pas seulement l'idée selon laquelle Dieu saurait à l'avance qui serait sauvé ou perdu, mais c'est, et Calvin précise que c'est le bon plaisir de Dieu, c'est l'idée selon laquelle, avant que nous naissions, Dieu a décidé si nous serions sauvés ou perdus. Et il précise qu'en effet, Dieu ne nous crée pas tous en pareille condition. Eh bien, Calvin, ici, en parfaite contradiction avec sa doctrine, mais par fidélité au texte biblique, affirme, toujours au sujet de ce « pour tout le peuple », par l'Évangile, Dieu invite au salut tous les hommes en général, et il précise, la grâce est également présentée à tous. Et il insiste sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et de même que j'ai dit récuser la terrible formule selon laquelle hors de l'Église, pas de salut, il nous faut récuser la tentation de cette autre formule, hors des églises, pas de véritable Noël. Gardons avec Noël la perspective universaliste d'un salut. Amen.
Thank you.
après cette rhapsodie de Noël composée par notre organiste en 1993, magnifique rhapsodie, nous allons chanter, parce que ce morceau nous y introduit, le cantique numéro 101, la première, la deuxième et la sixième strophe. Voici le temps des annonces.
Merci, cher Laurent, notre pasteur le plus populaire, sans être peuple, qui nous fait le plaisir de nous conduire ce matin dans ce culte. Nous avons une bonne nouvelle pour tout le peuple de l'oratoire, qui sera pour tous, j'en suis sûr, une grande joie. La naissance de Rachel, la naissance de la fille de Marie-Alix de Puter, que vous connaissez parce que vous la voyez régulièrement au stand de librairie. Et hier, une petite Rachel est donc venue au monde pour, là aussi, apporter tout ce qu'une naissance peut apporter en termes de joie et de reconfiguration de l'univers. Donc, elle sera de retour chez elle dans quelques jours et ce sera l'occasion de pouvoir l'appeler. Pour l'instant, elle préfère se reposer et après, nous aurons l'occasion de lui manifester toute notre joie. Peut-être pouvons-nous nous associer à une une sorte de cadeau commun. Elle a quelques besoins en termes de poussettes et autres accessoires indispensables en puériculture. Francine Bronstein, notre trésorière, a commencé à rassembler les dons de celles et ceux qui veulent s'associer à un cadeau de bienvenue qui lui rendra service, je pense. Laurent Gagnebin a donc inauguré notre triptyque de Noël. Demain, ici même, à 19h, nous aurons une veillée qui nous permettra de nous placer dans cette dynamique de Noël. Et le 25 décembre, à 10h30, le culte qui nous rassemblera. Et ce sera donc présidé par Marc Pernaud et moi-même. Voilà, c'est le temps des vacances scolaires. Les activités paroissiales sont donc en veille, de façon à se préparer pour affronter 2013 avec force, courage. Je vous annonce une autre bonne nouvelle qui sera, j'en suis sûr, pour tout le peuple, pas simplement une seule catégorie de la paroisse, un sujet d'une grande joie. C'est maintenant le temps de l'offrande.
recueillons-nous dans la prière. Ô Éternel, toi qui réponds à l'attente des hommes, et en Jésus viens éclairer notre nuit et nous révéler ton amour, un amour dont rien ne peut désormais nous séparer, donne-nous d'être solidaires des faibles et des petits. En ce jour où tu donnes à tout ton peuple, à chacune et chacun d'entre nous, une grande joie, nous voulons penser à celles et ceux qui pleurent et qui connaissent l'amertume de la vie, solitaires, abandonnés, éprouvés par la douleur et l'injustice, par le deuil. Tu nous donnes la lumière de Noël. Donne-nous d'être pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin des messagers d'espérance et de joie, des porteurs de ta joie. Et dans la communion de ton Église universelle, et avec ceux-là même qui pensent ne pas avoir d'Église, nous voulons te redire, porter à la cité des âmes, par les cloches de notre temple, la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Allons en paix. Amen.